Professeur Jean-Louis Cros, bonjour.
Bonjour.
Professeur, vous travaillez à l'IBDML et vous vous occupez de chimie biomoléculaire ?
Tout à fait. C'est donc une spécificité qui est à l'interface entre la chimie et la biologie pour essayer justement d'appréhender des problèmes de biologie sous l'aspect de chimique et pour essayer d'amener des solutions qui ne sont pas forcément évidentes pour le biologiste. Et la chimie peut être aussi un outil qui permet de mettre au point des médicaments, mais qui peut aussi expliquer des mécanismes biologiques qui sont souvent complexes.
Alors professeur, j'ai entendu dire que vous avez des problèmes entre les tests et tout ce qui est in vitro et ensuite l'application in vivo. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Tout à fait. Ça, c'est, le problème le plus crucial, c'est de passer du stade in vitro, lorsque le chimiste est tout heureux d'avoir trouvé une molécule qui marche en test cellulaire ou en test enzymatique, il doit forcément essayer d'aller plus loin, et pour ça, il a besoin de modèles in vivo. Aujourd'hui, des modèles in vivo dépendant de certaines pathologies, et je pense notamment à la pathologie Alzheimer, nécessitent d'avoir des animaux qui sont transgéniques. Il faut savoir aujourd'hui que des souris transgéniques qui reproduisent plus ou moins la maladie d'Alzheimer sont des animaux qui sont propriétaires et qui donc ne sont pas accessibles très facilement. Et donc pour essayer de faire ce type d'expérimentation, il faut donc avoir recours à ces souris transgéniques et ce sont des sociétés qui les vendent. Il faut savoir que des souris de ce type-là sont très onéreuses et sachant que pour un essai, il faut avoir évidemment plusieurs dizaines de souris transgéniques pour faire un essai sur une drogue parce que la drogue doit être testée à différentes concentrations. Dépendant du stade d'évolution de la souris, ça peut être des souris jeunes, ça peut être des souris âgées et donc tout ceci nécessite beaucoup d'animaux et donc des sommes que des laboratoires universitaires ne peuvent pas assumer.
Au niveau des modèles que vous utilisez pour les tests, qu'en est-il ?
Les modèles aujourd'hui, notamment dans les tests Alzheimer, ce sont des modèles animaux qui ont dans lesquels donc transgéniques, dans lesquels on a muté une protéine qu'on appelle la protéine APP et qui produisent donc des plaques séniles, disons à une échelle relativement importante, ce qui permet ensuite de prendre, voir si l'on a des produits qui évitent la formation de plaques séniles, de pouvoir faire des mesures qui sont significatives. Si on n'avait pas justement ces souris transgéniques qui produisent suffisamment de ces plaques séniles du peptide bêta-amyloïde, il est clair qu'on aurait du mal à faire ces mesures. Donc déjà, dans ce cas-là, c'est ça. Si on prend par exemple des thérapies tumorales, il faut qu'on ait des animaux aussi transgéniques dans lesquels on injecte des tumeurs. Alors ça peut être des tumeurs sous-cutanées, mais ça peut être aussi des tumeurs dans le cerveau. Et là encore, il faut qu'on ait des animaux transgéniques qui coûtent excessivement cher. Et donc ça, c'est le problème majeur. Et aujourd'hui, il y a probablement beaucoup de molécules que les chimistes et les biologistes ont mis au point qui ont atteint le stade in vitro, mais qui restent en l'état parce qu'il n'est pas possible de pouvoir passer au test in vivo. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les gens qui font de la recherche, qui font des créateurs de molécules, qui font demandent. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est encore assez difficile, même si ça a tendance à s'améliorer.
Quelles seraient les solutions à envisager, si vous en avez, bien sûr ?
Les solutions à envisager, ça serait justement d'abord de faire en sorte qu'il y ait des crédits qui soient spécifiquement fondés sur l'évaluation donc des drogues qui passeraient du stade in vitro in vivo. Donc il faut que ce chapitre-là soit inclus dans justement les budgets de recherche. Ça, c'est d'autre part. Il est clair qu'il faudrait qu'il y ait des partenariats avec des industriels ou des gens qui justement sont à la base de ces nouveaux modèles pour que justement il puisse y avoir des sortes de deals qui feraient qu'il y ait un partage à la limite des retombées de valorisation s'il y en avait entre évidemment les gens qui mettent au point ces modèles et puis des gens comme nous, comme des chercheurs un peu plus en amont qui ont donné tout ce qui ont essayé d'amener ces molécules jusqu'à un stade avancé. Donc ça serait un petit peu les deux voies entre donc ces partenariats. Autrement, il faudrait que on puisse au niveau des chercheurs de montrer nos propres start-up essayer d'aller voir des investisseurs qui permettent justement les possibilités de monter une start-up avec donc des financements, avec des investisseurs qui croient en ce qu'on fait, qui croient en nos molécules. Alors aujourd'hui, là encore, ça se développe, ça commence, mais on est au stade initial et je pense qu'il faut amplifier ces possibilités.
Et au niveau de tout ce qui est donc essais cliniques, est-ce que vous croyez que la France est un peu frileuse ?
Je ne sais pas si on pourrait parler de ça comme ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que un critère très simple. Regardons combien de molécules françaises aujourd'hui, d'accord, sont sorties, qui ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Il y en a relativement peu. On est moins bon, évidemment, que les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et même que l'Espagne. Donc, aujourd'hui, ce chaînon est manquant. Et donc, je pense que là, ça commence à devenir important que, justement, la France prenne plus de brevets, qu'on fasse plus d'essais et qu'on consacre justement plus de budget, parce que il faut bien voir que si une molécule atteint le marché, il est clair que ça va être des retombées économiques importantes. Donc c'est pas forcément un investissement en vain. Il est clair que toutes les molécules ne vont pas atteindre le marché, mais il n'empêche que il est possible que on puisse justement amener des molécules jusqu'à un certain stade. Et il faut savoir que des molécules qui passent par exemple le stade clinique 1 ou 2, bon, ben, ensuite, elles sont reprises par des big pharma qui sont prêts à investir beaucoup d'argent, parce que les big pharma ne vont plus faire de la recherche en amont. Et eux, ils sont plutôt spécialisés dans le développement de molécules qui ont déjà montré des profils thérapeutiques qui sont intéressants. Et donc, peut-être que l'intérêt des laboratoires universitaires, c'est d'amener ces molécules jusqu'à un certain stade et ensuite de faire des deals. Donc ça peut être aussi un moyen de développer, de passer ce stade de l'in vitro à l'in vivo. Et je crois que ça s'est pas encore rentré dans les mœurs totalement, mais j'imagine que ça peut être, disons, une voie assez importante.
Vous avez peut-être une envie de créer votre start-up ?
Alors, je dois dire que j'ai déjà créé une start-up. Je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Trophos sur le campus de Limini et qui est dédiée donc des problèmes de neurobiologie et principalement des molécules qui sur les maladies rares comme la SLA et la sclérose en plaques amyloïde. Et donc on a déjà commencé à faire ça, donc c'est une entreprise qui maintenant doit avoir une trentaine de personnes qui travaillent là. Donc moi, bien sûr, j'ai été fondateur. Aujourd'hui, je continue à faire ma recherche et il est clair que je n'ai plus d'activité directe dans cette société, mais le but n'était-il pas d'abord de la créer et puis ensuite, il est évident, elle évolue et puis elle diverge un peu dans les objectifs, mais il n'empêche que c'est une expérience extraordinaire que je recommande à ce que les universités puissent tenter, parce que ça permet justement de voir comment on peut valoriser la recherche fondamentale, et que je peux faire de la recherche fondamentale, mais elle peut dériver sur de la recherche appliquée et de la valorisation. Et ça peut être extrêmement important.
Professeur Jean-Luc Rose, merci.
Merci beaucoup.